L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans l'émission La Maison des Tiers-Mondes. Aujourd'hui, nous recevons un invité.
Alors, c'est Michel Vinas, d'Espoir pour un enfant, héros.
Et pourquoi vous êtes sur FM+, dans l'émission La Maison du Tiers-Monde aujourd'hui ?
Eh bien, c'est pour présenter cette association, effectivement. Alors, c'est une association qui est issue de Terre des Hommes, qui a plus de 40 ans maintenant. Et c'est une association où il n'y a que des bénévoles. Et un des objets les plus importants de l'association actuellement est de faire venir en France des enfants qui ne peuvent pas être hospitalisés dans leur pays. Donc, on les fait venir en France, ils sont reçus dans une famille d'accueil, et à partir de là, on s'occupe d'eux, on les fait opérer souvent sur Montpellier, et quand ils ont été soignés, ils repartent dans leur pays, dans leur famille. Et ça demande effectivement une grosse logistique, parce que il faut obtenir, déjà, il faut arriver à repérer les enfants sur place qui ont besoin d'être soignés, il faut arriver à décrocher les visas, à faire tous les examens médicaux nécessaires pour pouvoir les faire venir. Et en même temps, il faut rentrer en contact en France avec un chirurgien qui va pouvoir opérer, qui va regarder le dossier, qui va donner son feu vert ou non. Il faut trouver une famille d'accueil et il faut faire aussi les démarches pour les visas, ainsi de suite. Donc, tout ce travail est un travail très important qui s'est mis au point petit à petit au bout de 40 ans. L'association doit avoir 42 ans maintenant. Ça fait donc un moment que ça dure. Au début, c'était 1-2 enfants qui venaient dans l'année. Actuellement, on reçoit en moyenne 35-37 enfants par an. Voilà. Ces enfants, en général, ne peuvent pas être opérés dans leur pays. Et donc, on les fait venir. Alors, c'est vrai que ça coûte cher parce que beaucoup d'hospitalisations se font à l'hôpital. L'hôpital, c'est entre 1 500 euros la journée et 3 000 quand c'est la réanimation. Donc, on a des chirurgiens qui jouent le jeu, qui pratiquement essayent de les garder le moins longtemps possible à l'hôpital. Mais on a des hospitalisations parfois très chères. On a des devis parfois. Là, on a un enfant qui doit venir, qui doit être opéré à Necker, à Paris, parce qu'on ne peut pas l'opérer à Montpellier. Le devis est déjà de 55 000 euros au départ. Plus, il faut penser qu'il faut prendre les billets d'avion. Il faut s'occuper... prendre tous les frais paramédicaux par la suite, le kiné, le... Alors, c'est vrai qu'on a des gratuités. On a des kinés qui sont super, parfois, qui nous font la gratuité. On a des chirurgiens qui nous font la gratuité. Par exemple, je peux citer un chirurgien de Montpellier qui travaillait à la clinique Saint-Jean, qui est parti au Mali, et il est allé faire des auscultations sur place. Enfin, il est allé faire examiner des enfants. Et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient besoin d'être opérés et qui ne l'étaient pas. Et quand il est revenu sur Montpellier, il y a une bonne dizaine d'années de cela, c'était le docteur Bosque, il nous a dit, moi, je veux, si ma clinique me suit, je vous fais 10 opérations gratuites par an. Et la clinique Saint-Jean, effectivement, a suivi. Et depuis tout ce temps, on a 10 opérations gratuites par an à la clinique Saint-Jean. C'est une chance parce qu'effectivement, le budget d'hospitalisation est très élevé dans notre association. Il est en moyenne de 200 000 euros par an quand même. Ouais. C'est vrai que...
C'est énorme.
Ouais, c'est très gros. Et donc, pour arriver à payer tout ça, alors c'est vrai qu'il y a des dons. Il y a des gens qui nous font des dons. On a des toutes petites subventions. Elles sont très minimes dans notre budget. Et puis, on a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour ramasser de l'argent. Alors, comment on ramasse ? Eh bien, déjà, les dons que nous font tous les gens. Alors, on récupère le linge, on fait un peu comme Emmaüs. On récupère le linge, on récupère les chaussures, les livres, les jouets. On récupère des tas de choses. Par exemple, les Lego, les Playmobil, ça permet d'être revendu à des prix intéressants. Et tout ça, petit à petit, font une ressource financière assez importante dans l'année. Ça représente plus de 50%. Enfin, ça et les manifestations représentent au moins 60% de nos recettes. C'est-à-dire qu'avec nos ventes, on doit faire à peu près 170 000 euros dans l'année, même davantage, un petit peu cette année. Et avec les manifestations qu'on fait, par exemple à Font-Rosanne, on fait des manifestations pour... on fait la Saint-Vincent à Gijan, là, le 20 janvier. Toutes ces manifestations nous permettent aussi de ramasser entre 40 et 50 000 euros. Quoi. En plus de ça, il y a tout un travail qui est fait avec, à propos des enfants qui sont venus en France. Alors je suis un peu incohérent, je repasse aux actions que nous menons. En dehors des hospitalisations, on fait aussi beaucoup de parrainages. Les parrainages, ce sont des gens souvent qui ont reçu des enfants en France, qui les ont accueillis pendant quelques mois, parfois un an, parfois plus, même selon les cas. Et quand ils voient repartir l'enfant, ils n'ont pas envie de le laisser repartir avec un enfant qui ne va pas manger à sa faim, un enfant qui ne va pas aller à l'école ou qui n'aura pas de soins. Et donc, on met en place un parrainage qui permet de suivre l'enfant sur place. Ce parrainage est de 25 euros par mois. Et par contre, on demande aux parrains, effectivement, de s'impliquer au moins sur toute l'année, et si c'est possible, sur plusieurs années, pour que, effectivement, l'enfant ait un suivi régulier pendant assez longtemps. Et donc, effectivement, on a à peu près, je ne veux pas dire des bêtises, on a 60 000 euros, 65 000 euros de parrainage. Ce sont des gens qui s'engagent effectivement à prendre un enfant en charge. Et alors, on a aussi des petits orphelinats qui sont pris en charge, des gens avec qui on avait travaillé au début. Au début, je parle il y a une vingtaine d'années, qui avaient recueilli des enfants dans la rue, un, puis deux, puis trois. Et puis, comme chaque année, après, on leur amenait un ou deux enfants, ils sont actuellement à une trentaine d'enfants accueillis chez eux. Ils ont monté un petit orphelinat. Et donc... on aide par des parrainages, effectivement, on entretient cet orphelinat pour leur payer la scolarité, la nourriture et les soins. Voilà, c'est quelque chose qui... Et on fait ça à deux ou trois endroits différents, plus les parrainages des familles d'accueil qui tiennent à ce que les enfants soient effectivement encore pris en charge au niveau de la scolarisation, de la nourriture, et qu'ils manquent de rien. Voilà. C'est une grosse partie de nos actions. Après, ce qu'on peut dire aussi, qu'on fait du développement. À l'origine, c'était le but de l'association. C'est-à-dire qu'on est issu de Terre des Hommes. Terre des Hommes est une grosse association nationale maintenant. Et les fondateurs d'Espoir pour un enfant ont quitté Terre des Hommes parce que les frais de fonctionnement étaient trop élevés. C'était une association nationale, c'est normal. Bon, dès que ça grossit, après, on a besoin d'avoir des structures beaucoup plus importantes, mais les frais de fonctionnement étaient très élevés. Et donc, ils ont monté des associations départementales, dont Espoir pour un enfant fait partie. Il y a par exemple Terre des enfants du Gard, Terre des enfants Vaucluse. Et Espoir pour un enfant, c'est construit en voulant des frais de fonctionnement minimum. C'est-à-dire qu'on tourne actuellement, l'année dernière, on était à moins de 4% de frais de fonctionnement, ce qui est très rare dans les associations.
Et oui.
Pardon ?
Je dis oui, c'est très rare. Oui.
Ouais. Et on y arrive parce que tout le monde est bénévole. Il n'y a que du bénévolat. On ne paye absolument personne. Même personne n'est indemnisé. Par contre, bon, les familles d'accueil, quand elles ont besoin de soins pharmaceutiques, quand elles ont besoin d'être aidées au niveau de l'habillement, au niveau de frais, si elles sont vraiment pauvres et qu'elles ont besoin d'être aidées, on peut les aider. Mais dans l'ensemble, tout le monde fait gratuitement tout ce qu'il fait. Voilà, c'est notre point fort. Et on arrive effectivement à avoir un budget de 400 000 euros avec que des bénévoles. Et dans tous les secteurs, alors dans le fonctionnement de l'association, il y a un conseil d'administration où tout le monde est bénévole. Et comme ça devenait difficile, par exemple, un trésorier avait un travail très important. Je suis actuellement le trésorier de l'association. Et donc, on a monté... Une commission, trésorerie, dans laquelle on est 5 ou 6 à travailler. Alors, il y a une comptable, ça on a la chance d'avoir une comptable bénévole qui nous aide. On a, après, des gens qui font la saisie sur informatique. Moi, je suis le trésorier en titre et en fait, je fais que gérer, que superviser un peu le travail. Et ce travail-là, on le fait un peu partout. Dans les hospitalisations, on a toute une équipe qui travaille aux hospitalisations. Parce qu'on a en plus 2 secteurs dans les hospitalisations. On a le secteur en France, pour gérer les enfants qui viennent en France et qui sont hospitalisés en général sur Montpellier ou sur Béziers. Et puis on a un secteur qui s'occupe en partie des hospitalisations sur place. Parce que ça aussi on le fait. Quand un enfant est trop démuni, quand on nous appelle pour un enfant qui, au Mali ou dans un autre pays, ne peut pas être soigné et qu'on peut le faire opérer sur place, on le fait opérer sur place. Voilà, c'est donc une grande partie de ce qu'on fait et ça demande beaucoup d'investissement. Alors les gens qui sont à Espoir pour un enfant, effectivement, sont très investis dans ce qu'ils font, surtout au conseil d'administration, dans les commissions. Et puis, on a aussi beaucoup de gens qui nous aident. On a pratiquement une centaine de bénévoles qui gravitent autour de tout ce qu'on fait, qui nous aident, par exemple, quand on fait des braderies, c'est-à-dire que quand on fait les ventes. À ce moment-là, on a besoin de monde pour mettre tout en place. Ça nous demande presque une journée pour mettre en place dans une grande salle prêtée par une mairie. Et ensuite, on fait la vente pendant 2 jours. Et le soir, il faut tout débarrasser. Donc, ça demande énormément de travail. Mais ce bénévolat se fait facilement parce qu'on travaille en équipe. Les gens se connaissent petit à petit. Il y a des rapports, des relations d'amitié. Et il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de convivialité. À la fin d'une braderie, on mange un coup et on boit ensemble. Et pas sur le dos de l'association. Chacun amène et on partage. Et ça permet effectivement de vivre quelque chose en commun d'assez extraordinaire. Je pense que c'est une association qui apporte beaucoup de joie à ses adhérents, à tous les gens qui y participent. Et au niveau des adhérents, on a à peu près actuellement 600 adhérents dans l'association, ce qui est assez important. Et encore, on pourrait en avoir davantage parce qu'il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait, même qui font des dons et qui oublient d'adhérer. Qui ne donnent pas l'adhésion, alors que cette adhésion est importante pour nous, parce qu'elle donne du poids à notre association, et puis elle montre que les gens adhèrent vraiment à ce qu'on fait. Voilà. Je crois qu'on a la chance d'avoir aussi un certain renouvellement au niveau de notre conseil d'administration. On a actuellement des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui viennent nous aider, qui rentrent dans le conseil d'administration, et ça, pour nous, c'est important. Parce que moi, je connais beaucoup d'associations qui meurent faute de renouvellement, surtout dans le bénévolat. Et là, actuellement, l'association s'est bien renouvelée, elle s'est structurée, et j'espère que bon, ça va continuer encore un petit moment.
D'accord. Ben, nous allons maintenant faire une petite pause musicale et on va passer une musique que notre invité a choisie. Vous êtes toujours sur FM+, dans la maison du tiers-monde, avec notre invité
Michel.
Alors Michel, vous avez un point commun avec une personne qui fait la même chose que vous à peu près, enfin, je vais vous la citer, c'est monsieur le chanteur Christian Delagrange, qui a fait quelques tubes dans les années 70, 15 millions d'albums vendus. Il a monté une association, vous la connaissez peut-être, AHI. Et ça fait un peu le même principe. C'est pour ça que, hors antenne, je vais demander si vous intervenez aussi en Afrique. Parce que eux, ils s'interviennent aussi parce qu'ils construisent des hôpitaux, ils construisent plein de choses à Haïti. Là, il y avait un projet, je sais, à Madagascar. Et puis, c'est des associations qui pourraient peut-être collaborer, travailler un petit peu ensemble. Et pourquoi pas mettre leurs moyens financiers ensemble. De façon à ce que ce que vous faites soit encore plus important, plus grand, mais soit encore plus touche encore plus de monde.
Donc, oui. Mais je connais très bien effectivement son association. On s'est rencontrés d'ailleurs pour ça. Et je pense que non, ce serait une erreur de grossir, de se mettre ensemble. Je crois que justement les grosses associations tombent vite dans ce piège de vouloir grossir et de plus maîtriser ce qu'ils font. Je crois que l'aide qu'on apporte en Afrique, que ce soit lui ou nous, est une aide importante et qui est très efficace parce que tout l'argent qui est récolté arrive à destination et bien utilisé. C'est-à-dire notre gros souci quand on travaille en Afrique, c'est d'avoir des correspondants sur place, fiables, à qui on peut vraiment faire confiance. Et malgré ce, il faut qu'on ait des personnes qui aillent sur place et qui aillent vérifier si tout se fait correctement et si tout est fait dans de bonnes conditions. Je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel pour la confiance. Et c'est vrai que si on ne le fait pas, on est à peu près sûr de se planter. Et alors, on voit les grosses aides qu'apportent les grosses associations dans les pays et on voit que souvent ces aides, elles échouent parce qu'effectivement, il y a un manque de contrôle, il y a un manque de suivi, il y a des détournements. Et donc, nous, on est très vigilants, le peu qu'on fait, de le faire correctement, de le faire à ce que l'argent arrive bien. Et alors, par exemple, au niveau du développement, actuellement, on travaille avec un docteur au Bénin qui a monté une association, enfin, qui travaille dans une association sur place qui s'appelle La Vie Nouvelle. Ça se situe à Cotonou, c'est sur le lac Nokoué. Et cette association, au départ, on l'aidait en y envoyant des médicaments, je parle déjà de plus de 20 ans en arrière. Et on avait envoyé un conteneur à ce docteur avec du matériel médical qu'on avait récupéré, du beau matériel médical qu'on avait récupéré. Et dedans, on avait mis un peu quelques affaires scolaires. Et à partir de là, il a créé une école. Alors ça nous a interloqués. Parce qu'avec trois fois rien, il a repris une vieille catéchèse qui était délabrée un peu sur le lac, une catéchèse sur pilotis, et dedans, il a fait une école, une classe de 50 élèves. Fait une école de 50 élèves. Et cette école, c'était assez extraordinaire de voir comment elle était. Et plus de 3 ans après, en 2003, ça c'était en 2000, en 2003, il a créé une école carrément de 3 classes avec 150 gosses. Alors la première fois, il n'y avait que des garçons. Là, on commençait à voir arriver des filles dans l'école. Et puis, cette école, elle a été inondée quelques années plus tard. On les a aidés à la restaurer. Puis elle a été réinondée quelques années plus tard. Elle était sur un lac, le lac Monte.
Ah oui.
Et donc, on l'a dit, on ne peut pas continuer comme ça. On lui a proposé notre aide pour construire une école en dur sur le bord du lac. Donc, on est en train de construire cette école. Elle est pratiquement terminée. On a mis 4 ans pour la réaliser. On a fait... c'est une école sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, disons, est surélevé pour éviter d'être inondé, justement. Et il y a 2 étages. Et donc, il y a 3 classes par niveau. Actuellement, le nombre d'enfants scolarisés est de 367 enfants.
Wow, c'est beaucoup.
Oui. Pour 6 classes, c'est énorme. Ça fait plus de 60 gosses par classe, en moyenne. Et si vous voulez, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a autant de filles que de garçons maintenant. Et puis, ce docteur s'est rendu compte que l'éducation était essentielle. Cette population vit sur un lac. Hein, ils vivent tous sur des pilotis. Mmh. Et ce lac, l'eau du lac, elle sert à tout. Elle sert à faire la vaisselle, à faire la cuisine. Elle sert au même temps de tout à l'égout. Donc, c'est un endroit où encore on attrape le choléra facilement.
Ah bah oui, parce que quand on mélange un peu tout,
ouais.
Faire la cuisine avec un endroit avec de l'eau où on a nettoyé du linge.
Ouais. Donc, il s'est rendu compte que l'éducation était aussi importante que les soins. Alors, il a un dispensaire qui marche très bien, qui fonctionne très bien, hein, c'est très structuré. Mais il s'est rendu compte qu'avec le dispensaire, il allait soigner les gens indéfiniment sans jamais apporter quelque chose de plus. Et la scolarisation est en train de tout changer dans le secteur. C'est-à-dire qu'il leur apprend l'hygiène, il leur apprend à mesure à se laver les mains, à se laver, à ne pas mélanger, à prendre l'eau potable pour faire les choses essentielles, quoi. Et donc, petit à petit, il a monté cette école et en même temps, il monte une ferme. Alors là, il n'est pas très doué pour la ferme. On est obligé un peu de... Je lui demande souvent de prendre des gens compétents pour s'entourer de gens compétents parce qu'il a besoin d'être aidé. Alors, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un qui venait en Europe à l'époque parce qu'il était... il représentait son pays pour l'Europe, c'est-à-dire c'est le réseau des organisations médicales africaines.
D'accord.
Et quand il venait, effectivement, il nous rencontrait. Et alors, il était venu nous voir et il nous avait vu travailler dans les braderies. Il était venu nous donner un coup de main. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que l'argent, on le transpirait. Il ne tombait pas dans l'escarcelle aussi facilement. Et donc, il est très attentif à ne pas gaspiller lui non plus et à montrer que, à rendre compte de ce qui est fait. Et c'est quelqu'un qu'on aide. Effectivement, l'école nous a coûté, près de 90 000 euros. Trois niveaux plutôt, c'est important. En plus de ça, on lui envoie un conteneur pour à mesure pour la meubler. Il a d'autres aides, il a des associations, une association italienne qui lui a fait des bancs et des bureaux, une association canadienne maintenant qui va lui équiper une autre classe. Nous, on vient d'y envoyer effectivement un conteneur et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Alors, ce développement-là est intéressant parce que c'est pas nous qui développons, c'est lui. Enfin, c'est eux, c'est les Africains. On les aide, eux, on leur apporte l'argent, on leur apporte ce qu'il faut pour qu'ils puissent se développer. Mais on ne rentre pas dans leur fonctionnement. C'est eux qui font fonctionner leur boutique. Et ça, c'est essentiel. Et si on veut que ça se développe, je pense que c'est la seule manière de procéder. Il ne faut jamais faire à leur place. Il faut les aider à réaliser ce qu'ils ont besoin de faire. Voilà. Voilà un peu comment on conçoit le développement à Espoir. Alors, il y a autre chose aussi qu'on fait sur place et on a besoin aussi de correspondants étrangers et puis de visiteurs, qu'on appelle des visiteurs de confiance. C'est que les enfants qui ont été soignés en France, quand ils repartent dans leur pays, parfois ils ont besoin encore d'un suivi, ils ont besoin de soins. Et donc, on a besoin de gens avec qui, sur place, on va pouvoir correspondre pour pouvoir aider encore, donner des médicaments si c'est nécessaire, les aider à prodiguer les soins qu'il faut faire et ainsi de suite, et voir s'il ne faut pas faire revenir l'enfant, s'il y a un complément d'une autre hospitalisation à faire ou quelque chose comme ça. Voilà.
Et comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut devenir adhérent de l'association ?
Alors, l'association a un site, déjà, qui est facile à trouver. Ce site, c'est www.espoirenfant34. Je ne me trompe pas.
D'accord.
On le trouve facilement. Dessus, il y a toutes les coordonnées, effectivement, pour nous rejoindre. Et puis, on fait pas mal de manifestations. On a le siège État Saint-Jean de Védas. C'est 7 rue Fond de l'Hôpital. Il y a aussi dessus, sur la porte, un numéro de téléphone. On reçoit les dons, effectivement, 4 jours par semaine. Le lundi après-midi, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi après-midi. Et en même temps, on a un local à Saint-Jean-de-Védas dans lequel on vend ce qu'on récupère en partie. En dehors des braderies, on fait la vente sur place. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, notre local était abîmé, le toit était menacé de s'effondrer, donc on fait des travaux. Et je pense que dans 15 jours, on pourra reprendre la vente. Quoi. Voilà.
D'accord. Vous êtes toujours sur FM+, dans l'émission La Maison du Tiers-Monde, avec moi-même, Jean-François, et exceptionnellement, je remplace Madeleine. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre Madeleine, aujourd'hui, c'est pas elle, c'est moi, Jean-François. Et donc, on reçoit un invité.
Michel Vinas, trésorier d'Espoir pour un enfant.
Et redonnez le site internet, si vous l'avez en tête.
C'est www.espoirenfant34.fr. Voilà, si vous voulez rejoindre Espoir. Alors, c'est vrai qu'on cherche des bénévoles aussi, on cherche des familles d'accueil. Et puis, on est preneur de tout ce qu'on nous donne qui peut être revalorisé et revendu, parce qu'effectivement, ça nous permet effectivement de soigner les enfants et de faire du développement, comme on l'a expliqué.
Et vous êtes en quelque sorte le secrétaire, et puis aussi la personne qui s'occupe de la communication au niveau des radios, au niveau de...
Mais disons qu'en cette fin d'année, il n'y a pas énormément de vins qui sont disponibles. J'ai été président d'Espoir. Pendant longtemps, j'ai fait les petites mains, j'ai trié les médicaments, j'ai travaillé, et puis jusqu'en 2009, où ça a été interdit. C'est une association dans laquelle je suis beaucoup impliqué, parce que c'est une association qui me plaît fondamentalement. On est très libre, on travaille en équipe. Chacun développe dans son secteur, on a beaucoup de liberté dans ce qu'on entreprend, et j'ai acquis beaucoup d'amitié, beaucoup de relations avec, qui sont irremplaçables, voilà.
D'accord, ben on va écouter de nouveau la musique qu'on a déjà entendue une première fois, mais on va la rediffuser parce qu'elle est très très belle, donc on va la mettre un petit peu en valeur. Que l'association s'occupe uniquement pour l'instant de l'Afrique.
Non, on ne travaille pas qu'avec l'Afrique. En fait, on travaille aussi un peu avec la Colombie. Ça date d'assez longtemps. En Colombie aussi, on envoie des parrainages et on aide un chirurgien dont le frère était installé, Guillermo Toro était installé à Palavas comme kiné. Il était très connu. Et donc, il menait une action, effectivement, pour aider les hospitalisations sur place là-bas en Colombie. Son frère Alvaro est chirurgien là-bas sur place à Medellín. Et donc, on envoie effectivement aussi des sommes d'argent assez importantes là-bas pour les aider. Et on travaille aussi au Vietnam, parce qu'on a, on a quelqu'un du conseil d'administration d'Espoir qui est vietnamien d'origine, qui était pharmacien à la retraite en France. Et qui part faire une mission au Vietnam chaque année. Et il soigne pratiquement une trentaine d'enfants avec 6000 euros. On arrive à soigner sur place là-bas une trentaine d'enfants. Donc, il n'y a pas que l'Afrique. De toute façon, on intervient partout où vraiment un enfant a besoin d'être secouru. Là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a aucun... Mais bon, c'est vrai que chez nous, les enfants sont pris en charge et donc n'ont pas besoin de notre aide en général. Voilà.
Et l'adhésion, ça coûte combien si on veut adhérer ?
Eh bien, écoutez, l'adhésion pour quelqu'un, c'est 24 euros pour une personne seule. Et pour un couple qui désire adhérer en famille, c'est 40 euros.
D'accord. Donc, ben, je conseille à tous les gens qui écoutent l'émission, s'ils ont envie de faire un geste, s'ils ont envie d'aider une association, ben, on peut aider l'association.
Espoir pour un enfant... vous me demandez le...
Oui.
Espoir pour un enfant 34, effectivement. Le site, c'est www.espoirenfant34.fr. Et je veux remercier quand même cette radio de nous avoir invités.
Avec grand plaisir.
C'était pour moi aussi un grand plaisir de parler un peu de tout ce qu'on fait et de faire connaître. Et encore une fois, merci de m'avoir reçu ce matin.
Avec grand plaisir. C'était la Maison du Tiers-Monde, présentée par Jean-François, exceptionnellement aujourd'hui, et notre ami Stéphane Marin à la technique, et notre invité...
Michel Vinas.
Michel Vinas. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.